Je m'appelle Ibrahim. Je viens de l'état du Darfour occidental, de la ville d'Al-Janina. Je suis arrivé ici en Italie il y a environ 2 semaines. Je leur dis que je veux rester en France. Que je ne suis pas un fauteur de troubles. Que je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai un passé, j'ai travaillé dans des organisations internationales, ils peuvent vérifier, ils peuvent m'interroger, je ne cherche que la paix. Je les supplie de me laisser passer. On essaie de les convaincre, mais c'est très difficile de convaincre des policiers, très difficile. Ils ne vous donnent même pas l'occasion de parler, ils vous disent de la fermer. Je ne comprends pas le français, mais parfois on devine les choses. Je comprends qu'ils me disent qu'ils ne parlent pas anglais. Ils m'ordonnent de me taire. Voilà. Je vais encore essayer, encore et encore, par le bus ou par le train. Et j'espère avoir la chance de tomber un jour sur un policier anglophone que je tenterai de convaincre de me laisser passer. C'est une affaire de logique et d'humanité.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Ibrahim, qui a fui le Darfour occidental où les milices violent, pillent et enrôlent de force les gamins après avoir massacré leur famille, raconte une histoire qu'il nous semble avoir entendue des milliers de fois. Qu'ils viennent d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient ou d'Afghanistan, ceux qui affrontent les routes de l'exil au péril de leur vie ne cherchent qu'une seule chose, la paix et la possibilité de vivre une existence digne de ce nom. Mais, transformés en migrants menaçant notre identité par un discours politique peureux, les réfugiés frappent en vain à notre porte. La France, qui hier intégrait sans difficulté des milliers d'Italiens, de Polonais, de Vietnamiens, s'était engagée auprès de Bruxelles à en accueillir 30 000. Aujourd'hui, c'est 10 fois moins qui ont pu trouver refuge dans la fameuse patrie des droits de l'homme. Et lorsque des hommes et des femmes révoltés par cette indignité leur viennent en aide, ils sont traités comme des passeurs, menacés de 5 années de prison et de 30 000 euros d'amende. En septembre dernier, France Culture a diffusé un documentaire sonore réalisé par Raphaël Kraft à la frontière franco-italienne. Journaliste indépendant, habitué des zones de conflit, il s'agissait pour lui au départ de rendre compte de ce qui se passait du côté de Vintimille et de Menton, où des milliers de réfugiés bloqués par les forces de l'ordre tentent de passer en France, parfois aidés par des habitants des vallées. Interpellé un jour côté italien par un père de famille irakien dormant dehors avec femme et enfants et désireux de demander l'asile politique en France sans y parvenir, Raphaël Kraft s'était réfugié derrière sa neutralité de journaliste. Remâchant sa honte et blessé dans ses convictions de citoyen, il décidera alors de faire franchir la frontière à 2 hommes originaires du Darfour. Son récit, magnifiquement réalisé par Jean-Philippe Navarre, est disponible en réécoute sur France Culture. Et « Passeur », le livre qui raconte cette aventure, est paru chez Buchet-Chastel. Raphaël Kraft est aujourd'hui l'invité de l'Humeur vagabonde.
Happy. L'année dernière, au début de l'automne, je découvrais un chalet situé aux confins de gorges traversées par une route sinueuse. Il donnait sur la montagne. C'était une maison à laquelle on accédait par un chemin de pierre, précédé d'un portail rouillé et figé dans le sol pour n'avoir jamais été fermé. La terrasse était un assemblage de planches rongées par le soleil et la pluie. On la traversait en funambule avant d'atteindre une porte-fenêtre aux vitres opaques qui tenait lieu d'entrée sur la pièce à vivre. Au mur, kilim, poterie, des souvenirs de voyage, afghans pour la plupart. J'étais venu là pour entendre Hubert, qui accueillait tous les réfugiés de passage. Il avait découvert Kaboul dans la plus stricte tradition routarde alors qu'il était en chemin pour le Bangladesh au début des années 70, peu de temps après la guerre civile. Époque pas si lointaine et pourtant révolue, où le désir d'un monde meilleur prenait d'abord la forme du pèlerinage.
Moi, je me suis tapé, comme 68 ans, la route de Katmandou et machin. Ce qui n'est absolument pas comparable, parce que nous, on avait le choix et il n'y avait aucun danger, alors qu'ils n'ont pas le choix et il y a tous les dangers. On avait trop de matériel, nous. On avait ras-le-bol du matériel. Mais nous, c'était une espèce de quête spirituelle, je dirais. Et eux, c'est matériel, parce que le spirituel, ils l'ont ancré. Et c'est ça qui les fait tenir, ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est très fort, c'est très fort. C'est très fort.
Bonjour Raphaël Kraft.
Bonjour.
On entend la voix de Hubert, l'un des personnages que vous avez rencontré au cours de ce reportage à la frontière franco-italienne. Il dit c'est très fort. J'ai l'impression que vous aussi, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas qui n'était pas prévu. Vous partiez faire un reportage, un documentaire sonore sur la situation des Français et des immigrés dans ce petit bout de frontière. Et quelque chose s'est emparé de vous qui n'était pas prévu.
Oui, en effet, oui, puisque j'ai passé une frontière. J'aime bien passer les frontières, oui. Et vous l'avez évoqué au début de cette émission, effectivement, à un moment, à la gare de Vintimille, je me suis retrouvé dans une situation qui n'était pas prévue. J'ai été confronté à moi-même, à que faire à cet instant, alors que j'étais en présence d'une famille qui dormait sur le perron de la gare de Vintimille depuis plusieurs jours, avec deux enfants en bas âge, d'un et deux ans. Et cette personne m'a demandé de le faire passer en France. Et comme vous le disiez, j'ai d'abord refusé. Enfin, je lui ai d'abord expliqué que j'étais journaliste et que mon statut ne me permettait pas de leur faire passer la frontière. Ce à quoi ce monsieur kurde n'a pas compris, puisque il avait été convaincu tout l'après-midi par une avocate de demander l'asile en France et de ne pas aller à Calais pour ensuite aller en Angleterre. Et acceptant de demander l'asile en France, on lui expliquait ensuite que l'entrée en France lui était interdite. Donc ça révélait une situation complètement absurde, d'autant que cette famille kurde originaire de Kirkouk en Irak avait tous les droits, ou en tous les cas toutes les chances d'obtenir au moins la protection subsidiaire, c'est-à-dire la possibilité d'être protégé par la France pendant un an et de voir cette protection renouvelée année après année. Et ça m'a révélé, je l'avais compris, cette situation absurde à la frontière franco-italienne. Mais lorsqu'on est en retrait, lorsqu'on n'est qu'observateur, on n'embrasse pas forcément le destin de ces personnes. Et le fait d'être confronté à cette situation m'a fait, en quelque sorte, même si je n'ai pas vécu leur exil, si je n'ai pas vécu leur voyage, mis dans cette situation d'acteur, malgré moi, où en tous les cas, on m'a fait entrer dans l'histoire. Et je ne pouvais pas techniquement les faire passer, puisque la frontière à Menton est fermée 24 heures sur 24. Les frontières plus au nord, dans les Alpes de Sospel, Tende, dans les Alpes du Sud, sont surveillées de façon alternative par la police aux frontières. Et une famille entière, dans ma voiture, il aurait fallu deux voitures pour ne prendre aucun risque d'être attrapé. Une première voiture qui part en éclaireur pour voir si la route est libre. Et donc j'ai appelé Hubert, qu'on vient d'entendre, pour lui l'informer qu'une famille dormait sur le perron de la gare. Et que il serait peut-être bienvenu de les faire passer, ce qu'il fit. En tous les cas, il s'arrangea pour les faire passer par le biais de connaissances. Et au même instant, il y avait Ibrahim, qu'on a entendu également, qui était à la coule sur la rambarde du perron de la gare de Vintimille. Et celui-ci m'a interpellé. Il avait été le témoin de notre conversation entre cette avocate qui avait convaincu cette famille kurde d'aller en France, moi-même, un passeur qui était là en guise d'interprète, bénévole, et d'autres badauds qui assistaient à cette réunion originale. Et il m'a interpellé pour me dire qu'il avait envie de témoigner. Et après une journée passée à la gare de Vintimille, j'ai hésité à sortir le micro parce que j'étais fatigué, parce que il m'avait semblé avoir enregistré suffisamment de son pour mon reportage. Et finalement, j'ai sorti mon micro et j'ai recueilli son témoignage pour découvrir un personnage à la fois malicieux, drôle, sympathique. Et comme ça arrive parfois dans la rue, dans un supermarché, au cinéma, où sais-je, il m'a semblé qu'il y avait une amitié en devenir entre lui et moi, et que j'avais affaire à voilà une personne qui m'a séduite, ouais.
Mais c'est en vous écoutant parler, Raphaël Kraft, en écoutant votre documentaire, en lisant votre livre, je me suis rendu compte que, en fait, vous étiez la parfaite illustration de ce fossé immense qu'il y a entre le discours officiel, l'affichage d'une politique, nos grands principes à nous, et juste la réalité simple. C'est-à-dire que, en fait, ce discours sur les migrants, les réfugiés, les envahisseurs, en fait, il se brise sur la simple réalité des gens quand on les rencontre. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les reportages sur les réfugiés installés dans certains villages de France, on se rend compte que avant, les gens étaient terrorisés et qu'une fois qu'ils se rendent compte que c'est les mêmes, c'est-à-dire que, à part la barrière de la langue, ce sont des gens comme nous, qui rêvent comme nous, qui ont des enfants comme nous, qui ont des difficultés comme nous, qui ont des qualités et des défauts comme nous. Une fois qu'on va au devant des gens comme vous l'avez fait, tout d'un coup, aucun discours ne tient plus. Il n'y a plus qu'une simple solidarité entre deux êtres humains. C'est ça qui vous est arrivé, en fait.
Oui. Et c'est vrai que, à la fois à la frontière franco-italienne, tout autant qu'à Paris, dans le quartier de la Chapelle où je vis, ainsi qu'à Calais, les Français se sont confrontés journellement à des situations comme celle-ci. Et c'est là qu'ils se révèlent. Et c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, les pouvoirs publics encouragent l'installation de réfugiés ou de migrants dans les campagnes françaises, dans les villes françaises. Et dès lors qu'ils sont en contact avec la population française et que celle-ci est en contact avec eux, effectivement, il y a beaucoup de frontières qui s'effacent, je suis d'accord. Et je crois qu'il faut encourager cela. Malheureusement, pour beaucoup, ils se retrouvent dans des foyers entre eux. Je pense notamment à Ibrahim et Ahmad que j'ai aidé à faire passer en France, qui ont vécu plusieurs mois au milieu de Soudanais, à ne parler que l'arabe soudanais, à prier ensemble, complètement coupés de la réalité française, sinon avec moi, puisqu'ils venaient souvent chez moi.
Alors vous avez employé le mot absurde, absurdité. C'est vrai que qu'il s'agisse c'est surtout dans votre livre, on se rend compte de ça, des agissements à la porte de la chapelle pour la dispersion des camps de migrants qui se reforment en permanence, que à la frontière où on voit des gendarmes ou des policiers avec des yeux qui en disent plus qu'ils ne voudraient sans doute, qui sont obligés de retenir des gens qui, en plus, pourraient demander l'asile politique en France, alors qu'on leur demande surtout de ne pas dire ça. Enfin, la politique à l'heure actuelle de la France, telle que vous l'avez ressentie, c'est une politique absurde qui consiste à disperser le problème. C'est bien ça que vous avez assisté à sa porte de la chapelle et à Menton.
Oui, et puis la question de la dispersion est réelle, en ce sens qu'il y a une vraie volonté d'invisibilité des personnes migrantes ou réfugiées en France. Il y a un double discours, il me semble, des pouvoirs publics qui veulent d'un côté choyer l'aile gauche de leur électorat en parlant d'humanité, en faisant des événements de communication à l'endroit des réfugiés. Je pense lorsque l'OFPRA sera en Allemagne pour inviter des Syriens à venir en France, qui ne veulent pas venir par ailleurs, et une politique de fermeté qui, elle, s'adresse à un électorat supposément xénophobe. C'est le terme employé par le ministre de l'Intérieur, alors ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, voilà, fermeté et humanité. Et on oublie effectivement le rationnel, la raison, qui veut que ce n'est pas 0,01, 2, 3, 4, 5% de la population française qui va attenter à ce que l'on qualifie volontiers aujourd'hui d'identité. On le voit en Scandinavie, on le voit en Allemagne. La venue de réfugiés, ça permet de relancer l'économie, ça permet, on peut voir beaucoup d'aspects positifs à cette chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France s'enferme dans un débat, à mon avis, qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas digne de ses valeurs.
Vous avez rencontré sur votre route Raphaël Kraft, en dehors de vos amis, de vos nouveaux amis que vous avez aidés à venir en France, des gens qui sont installés là-bas, des deux côtés de la frontière, des Italiens, des Français, qui sont souvent des gens qui ont de la bouteille, comme on dit, c'est-à-dire qui ont été routards, gauchos ou communistes, qui ne sont plus aujourd'hui tellement affiliés à quoi que ce soit parce qu'ils sont écœurés, comme tout le monde, mais qui sont des gens hauts en couleur, généreux, qui ne posent pas de questions, qui se mettent en quatre, qui ouvrent leur maison. Vous y avez vécu, des réfugiés y ont vécu. Il y a Enzo, du côté italien, il y a Hubert, qu'on a entendu, du côté français. Et puis, il y a un personnage, justement, vous y faisiez allusion, d'avocate, qui n'est mandatée par personne, par aucune organisation humanitaire ou politique, qui est une avocate parisienne et qui prend l'avion tous les week-ends pour descendre, pour tenter d'expliquer aux réfugiés côté italien quelles sont les opportunités légales en France. Alors évidemment, entre les deux, il y a la frontière. Mais ça, ce sont des personnages quand même assez exceptionnels. On nous dit que les Français ne veulent rien, mais il y en a qui font des choses tout à fait formidables.
Ah oui, il y a beaucoup de Français font des choses, et beaucoup d'Italiens aussi font des choses formidables. Cette avocate s'appelle Lou. Elle est aujourd'hui au Liban, elle travaille dans les camps de réfugiés syriens du Liban, elle s'occupe principalement des familles et des mineurs isolés. Et Lou, effectivement, pendant plusieurs mois, est allée chaque samedi à Vintimille et chaque dimanche à Calais sur ses propres deniers pour conseiller les réfugiés, à savoir leur expliquer leurs droits lorsqu'ils arrivent en France, lorsqu'ils souhaitent aller à Calais, et si bien qu'elle prenait l'avion, effectivement, le Paris-Nice de 8h le matin pour revenir le soir et ensuite prendre le train pour aller à Calais, parce qu'effectivement, les réfugiés, lorsqu'ils arrivent en Europe, et en France tout particulièrement, aucun dispositif n'est là pour leur expliquer ce qu'il se passe, comment ils peuvent obtenir des droits. N'oublions pas que la plupart d'entre eux ne viennent pas en France selon des critères sociaux, selon des critères de confort, mais davantage pour le dynamisme d'un pays. L'élection du pays va davantage dépendre de son dynamisme que des droits sociaux qu'il va pouvoir obtenir. Et donc Lou, qui est devenue une amie par ailleurs. Alors il y a effectivement Hubert qu'on entendait, lui ouvre sa maison à tous les réfugiés de passage. Sa maison est située dans des gorges dans l'arrière-pays niçois, c'est un petit peu un repère. Je suis allé lui rendre visite il y a quelques jours et il me disait que depuis juin 2015, il avait accueilli près d'un millier de réfugiés qui avaient passé la frontière. C'est-à-dire que ces jeunes passent la frontière souvent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est-à-dire que ils tentent par le train, puis sont refoulés, généralement tard le soir, si bien que lorsqu'ils reviennent à Vintimille, ils ne peuvent pas dormir dans le camp de la Croix-Rouge, puisque celui-ci a fermé ses portes. D'autres tentent de passer par les tunnels des autoroutes, d'autres plus rarement par les chemins de montagne. Et c'est un voyage extrêmement éprouvant, et ils peuvent trouver du repos chez Hubert avant de poursuivre leur route, soit vers le nord de la France, soit vers Calais, soit vers l'Allemagne, soit les pays scandinaves. Quant à Enzo, c'est un homme qui habite dans un petit village collé à la frontière française, collé à la commune de Menton. Et de chez lui, on aperçoit la France, la mer de Ligurie, l'Italie. Et donc, il voit passer quotidiennement des réfugiés en bas de son jardin. Et notamment, c'est un chemin qu'on appelle le Pas de la Mort, qui est une falaise qui domine la frontière de Saint-Ludovic et du pont Saint-Louis à Menton, où des réfugiés par dizaines sont tombés de cette falaise, dans le passé surtout, puisque Enzo a balisé cette voie désormais, pour ne pas que les réfugiés, lorsqu'ils passent le grillage de la frontière, attirés par les lumières de la ville de Menton, marchent dans cette direction pour finalement tomber de la falaise.
On va faire une petite halte sonore chez Hubert, justement, dans les Gorges du Loup.
Les militants No Border m'ont averti qu'il y avait une famille de Kurdes avec deux petits-enfants un peu perdu, ils m'ont demandé est-ce qu'il est possible de trouver une solution pour qu'ils passent la frontière, et donc on a trouvé bien évidemment une solution. Ils font une halte chez moi là, famille très éprouvée, fatiguée, quand on les voit à la gare de Vintimille, recroquevillée dans un coin de la gare, le papa protégeant toute la famille contre personne, mais en même temps dans un climat difficile. Et donc voilà, ils ont passé la frontière, et voilà, ce soir ils sont là, et on va manger un couscous préparé par Saddam, le Tunisien. Tous sont obligés de passer la frontière, de toute façon. Ils peuvent pas, ils vont pas rester bloqués. Imaginons que la frontière soit complètement bloquée, il y aurait à l'heure actuelle 3000 migrants bloqués à la frontière de Vintimille. Donc voilà, ça passe, tout le monde passe. Hein. Alors plus ou moins, c'est plus ou moins difficile. Pour eux, c'était un peu plus compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas se taper la montagne avec le début de l'automne, voilà, avec des risques. Et là, ils vont faire une demande d'asile, donc ils sont en parfaite légalité maintenant. Et ils vont peut-être arriver à se reconstruire après autant de difficultés, à amener une vie normale dans leur pays.
Porosila, porque le mabi molu, koni make aduteke kamo songe ali mami ni o make kono musole ali mami no soruna
L'humeur vagabonde sur France Inter.
J'ai vécu des situations risquées. J'ai mis ma vie en jeu. Je n'étais pas maître de mon destin. Ouais, c'était très risqué. Au Darfour, en Libye, nous avons vu des choses que nous n'oublierons jamais. Avant de nous mettre sur un bateau pour traverser la mer, les gens étaient battus, la nourriture infecte, le logement inqualifiable. Tu avais beau payer pour tout ça, tu étais quand même très maltraité.
Ils vous appelaient Abid ?
Ce mot, tu l'entends à tout bout de champ.
You always hear it in Libya.
Ça veut dire quoi, Abid?
Abid means slave.
Abid veut dire esclave.
Every black,
toutes les personnes noires de peau en Libye n'arrêtent pas d'entendre ce mot.
Libya, he's going to hear this word a lot.
Même si tu te lis d'amitié avec l'un d'entre eux.
Even if you became friend with them or anything.
Mais le pire, c'est les Érythréens qui le vivent.
And the way they, you know, bring them.
D'Érythrée, ils passent par le Soudan. Ensuite, ils traversent le désert du Sahara jusqu'au sud de la Libye, jusqu'à une oasis qu'on appelle Sabha. De Sabha, tu sais comment ils les emmènent à Tripoli?
Non.
Comment pourrais-je dire ça? Tu sais, les gros camions?
Oui.
Qui transportent de l'essence. Ils les mettent dedans.
Vraiment?
Dans les citernes.
It was filled with benzine,
après que la citerne a été vidée de son fuel et de son essence,
completely no oxygen inside.
Il n'y a pas du tout d'oxygène
they
à l'intérieur.
Put them like that, you know,
ils en mettent une centaine là-dedans. Ou 80, 70.
Like this is the amount.
À peu près ce nombre-là.
And they close it. And they bring them
et puis ils ferment la citerne pour les emmener de Sabha à Tripoli.
To Bin Walid,
à Ben Walid, exactement. Un peu avant Tripoli. Ils ont une ferme là-bas.
When the car arrived,
that un jour, alors que les camions arrivaient,
I helped them
j'ai aidé ces gens à sortir
out.
Des citernes.
The people was almost dead.
Ils étaient morts, pour ainsi dire.
Inside, and children,
il y avait des femmes et des enfants dedans. C'était une tragédie, une vraie tragédie.
And those people,
et ces gens ont payé 4 ou 5 000 dollars pour ce voyage.
Raphaël Kraft, on vient d'entendre à nouveau la voix d'Ibrahim, votre ami, qui aujourd'hui a un statut tout à fait légal en France. La France lui a enfin accordé la protection à laquelle il avait droit. Et dans votre livre, Ma sœur, qui va un petit peu plus en profondeur forcément que dans le documentaire sonore de France Culture, vous écrivez « Le statut de réfugié, c'est un peu la légion étrangère. Il faut voyager au péril de sa vie pour espérer l'obtenir. » Alors, il faut dire que vous savez de quoi vous parlez, parce que la légion étrangère, vous y êtes allé. Vous avez ouvert une radio en Afghanistan, donc vous portiez l'uniforme, et c'était une radio communautaire, c'est-à-dire c'était les Afghans qui la faisaient. Mais quand vous employez ces termes, vous avez des termes très forts dans votre livre pour décrire justement, comme Ibrahim le fait, le parcours au péril de leur vie de ces gens. On comprend bien que ce n'est pas d'être retenu à la frontière, d'être évacué par les policiers, qui peuvent empêcher des gens qui ont de toute façon déjà tout perdu et risqué leur vie, été battus, humiliés, insultés, volés, violés. Ils veulent juste vivre comme des êtres humains. Vous qui êtes parti comme militaire en Afghanistan, c'est le contraire de ce discours dénoncé assez souvent, hein, il faut le dire, le discours bobo, le discours droit-lomiste. Vous êtes allé sur le terrain et vous dites clairement dans votre livre que cette politique de la France, ce discours-là, cette dispersion, cette invisibilité organisée, c'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Il faut aider les gens chez eux ou quand ils arrivent chez nous, pour essayer justement de régler ce problème du terrorisme qui est toujours mis en avant pour dire qu'on ne peut pas accueillir toute cette misère.
Alors, je ne pense pas avoir le niveau pour pouvoir déployer des propositions, des arguments. Mais c'est vrai que de nombreux militants, avocats, hauts fonctionnaires également, militent pour que des possibilités de demande d'asile soient faites, soient permises dans les pays où les gens peuvent y avoir droit, c'est-à-dire ouvrir une antenne à Kaboul, ouvrir une antenne dans le sud-est de la Turquie, où se trouvent beaucoup de réfugiés.
Oui, aujourd'hui, il faut préciser, aucune ambassade ou aucun consulat n'accepte de délivrer des autorisations pour demander un asile politique.
Oui, à moins que vous soyez un intellectuel en vue de Khartoum, ou là, c'est possible. Mais aujourd'hui, effectivement, pour demander l'asile, et c'est pour ça que je fais la comparaison avec la Légion étrangère, puisqu'on ne peut s'engager dans la Légion étrangère que dans les différents bureaux répartis en France, et notamment à Aubagne, il faut voyager au péril de sa vie et frapper à la porte de la Légion. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe effectivement avec les réfugiés. Et les routes pour accéder à l'Europe, Ibrahim en parlait, le Sahara, la Méditerranée, le Maroc, l'Espagne, donc les murs de Ceuta, les Balkans en hiver, le mur de la Hongrie, le mur qui est en train d'être construit entre la Bulgarie et la Turquie, ce sont des routes extrêmement dangereuses, plus de 5000 morts en Méditerranée l'année dernière, 8 morts depuis juin 2015 à la frontière franco-italienne. Alors, on pourrait dire que c'est pas 5000 morts, mais c'est quand même 8 morts des personnes qui ont été écrasées par des camions sur l'autoroute reliant la France à l'Italie, un jeune électrocuté sur le toit d'un train, et j'en passe. Et oui, idéalement, il faudrait que rééquilibrer tout ça. Mais à nouveau, c'est pas de mon ressort, c'est pas de mon niveau. Moi, je suis un journaliste de terrain et je constate des situations comme celle à la frontière franco-italienne où la situation est effectivement absurde.
Alors, Raphaël Kraft, c'est à l'origine de ce récit. Un jour, votre statut de journaliste vous a plus pesé que protégé. Et en tant qu'être humain, vous avez donc fait passer Ibrahim et son ami qui vous avaient raconté leur vie, leur récit, leur périple. Et vous les emmenez sur un chemin de montagne par le col de Fenestre. C'est un périple que vous organisez grâce à Enzo. À l'arrivée, vous allez chez Hubert et vous avez, dans le documentaire sonore que l'on peut entendre donc en réécoute sur France Culture, le son de ces pas dans la montagne, les voix de ces deux hommes qui découvrent le paysage magnifique des Alpes. L'un est un ancien berger, il cherche des vaches, il y a que des moutons et des mouflons peut-être. Et puis, il y a ce passage très émouvant au col de Fenestre, parce qu'au col de Fenestre, il y a une plaque qui raconte que dans l'autre sens, en 1943, des gens réfugiés cherchaient aussi à sauver leur vie. C'était les Juifs qui essayaient de passer en Italie.
L'endorphine et l'éclat du soleil nous rendaient insouciants de l'état d'enneigement du col et des conséquences de notre acte. En accompagnant Ibrahim et Ahmad en France, Thomas et moi risquions 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour l'aide au passage illégal de la frontière nationale.
Be careful here.
À l'heure où j'écris ces lignes, Ibrahim a obtenu la protection subsidiaire de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA.
Préviens faire la trace, Thomas.
La France ne lui reconnaît pas le statut de réfugié, mais considère qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courrait dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves à sa personne, comme la peine de mort, la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
The border.
Voilà, on est à la frontière. Ici, il y avait des soldats. Vous savez, la France et l'Italie étaient en guerre au début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout le long de la frontière, dans les montagnes,
il y avait des postes de police.
Non, pas seulement de la police.
En le refoulant manu militari vers l'Italie, sans prendre en compte son désir de demander l'asile en France, on lui avait dénié la possibilité de voir son cas examiné et d'obtenir la protection à laquelle, in fine, il avait droit.
Et ça, c'était probablement le casernement des soldats.
Tu leur lis ça.
Ok. Ibrahim, c'est important. Parce que, en septembre 1943, des centaines de Juifs de toute l'Europe cherchèrent souvent en vain de se sauver de la persécution antisémite. Toi qui passes libre, souviens-toi que cela est arrivé chaque fois que tu tolères que tout autre ne jouisse pas de tes mêmes droits.
Raphaël Kraft, vous avez apporté quelque chose à ces deux hommes, bien sûr. Vous nous apportez quelque chose avec votre livre et votre documentaire. Mais j'imagine que les rencontres que vous avez faites à ce moment-là vous ont aussi apporté quelque chose d'important.
Oula, c'est une grande question. Oui, moi j'ai eu une existence où j'ai souvent fait du reportage très loin à l'étranger, sans forcément me soucier... Même si j'ai fait quand même 3 tours de France à vélo pendant la campagne présidentielle, donc je me suis intéressé aux affaires de mon pays.
En faisant du vélo,
ouais, en rencontrant les gens. Mais Ibrahim, par sa volonté d'aller en France, c'est rare les réfugiés qui veulent aller en France aujourd'hui. Oui, mais je crois qu'il m'a rapproché de mon pays. Et en tous les cas, il m'a incité à m'en soucier davantage. C'est vrai.
Oui, et... parce qu'on sent quand même dans ce que vous écrivez, un sentiment qui est assez partagé aujourd'hui, qui est un peu un... Il y a les mots honte qui viennent, alors c'est peut-être des grands mots, mais oui, une sorte de découragement par rapport à ce pays qu'on rêve un peu. Et en ce moment, beaucoup de gens éprouvent ça envers la politique, envers ce discours de la France qui est censé nous représenter et qui ne nous représente pas forcément.
Oui, je crois que c'est très facile d'aller à l'encontre de ce discours négatif, hein, à son niveau, selon ses moyens, hein, comme ça peut être, des petits gestes du quotidien. Alors pour ça, c'est vrai que quand on habite Calais, La Chapelle ou la frontière franco-italienne, c'est plus facile. Mais je crois qu'à Dijon, à Lyon, n'importe où, on est en capacité, surtout de se faire du bien, d'abord, en faisant du bien.
Nous sommes Marcia Baila, les cracheurs de feu de l'enfance. Le trajet qui n'en finit pas, et la banquette arrière immense. Nous sommes Riverside Park. Les pelouses dans les centres-villes, nous sommes les beaux jours qui débarquent, nous sommes les amours imbéciles. Les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir, nous sommes la vie à cet instant, et je te suis sur le trottoir et je te regarde à présent.
Juste avant le disque, Raphaël Krah, vous nous disiez qu'effectivement, c'était pas si compliqué de faire un pas, de faire un geste et tout d'un coup de se rapprocher de cette image de la France qu'on aimerait bien conserver. Alors, je vous présente Elsa Denac, qui est venue nous retrouver. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Qui, justement, bonjour, après avoir lu votre livre, est allée arpenter ce quartier de la Chapelle, qui est le vôtre, et où elle a trouvé des gens qui, justement, ont tendu cette main, ont fait ce pas et qui s'en portent beaucoup mieux.
L'année dernière, on entendait aux informations démantèlement d'un camp de migrants à Stalingrad, démantèlement d'un camp de migrants à La Chapelle, démantèlement d'un camp de migrants à Pajol. Dans le quartier nord-est de Paris, 18e et 19e arrondissement, les camps de migrants ont migré au gré des évacuations policières. Ceux qui restent toujours à la même place, c'est les riverains. Ils ont vu la misère au pied de leurs portes et certains d'entre eux se sont mobilisés, ne pouvant pas faire autrement. J'ai été à la rencontre de ces acteurs locaux, Delphine de La Chapelle, Bénédicte, Jérôme et Pascal de Quai de Seine. Ils se sont rencontrés autour du collectif Petit Déjeuner, un collectif qui sert des cafés et des tartines aux migrants, de 8h30 à 10h, Quai de Seine, sur le canal Saint-Martin. Ils agissent comme ils peuvent, à leur niveau. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ils apportent un peu de soleil aux migrants. On les écoute un jour de pluie.
Je m'appelle Delphine, j'ai 30 ans et j'habite à Stalingrad et j'aide les migrants depuis le mois d'avril dernier, donc ça va bientôt faire un an. Et j'ai commencé parce que un des campements de rue de cette époque-là était devant chez moi. Mon immeuble donne vraiment sur le boulevard de la Chapelle, du coup on a été plusieurs de l'immeuble à se mobiliser.
Pour moi c'est un vendredi soir, on doit être début septembre, mais j'ai un ami qui me dit « demain matin j'ai ma voisine qui descend avec son seau de thé là, parce qu'avec les réfugiés ». Ben, je suis allé le lendemain et puis voilà. Puis après, je suis allé tous les jours avec le seau de thé.
No more tea.
On était très nombreux à se questionner là-dessus et avoir envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi faire. Et à un moment, tout le monde a finalement est passé à l'action.
Quel que soit le lieu, s'il y a un camp qui commence à se former, il y a des initiatives citoyennes qui supportent pas, qui se disent « tiens, je vais les servir un petit café », on s'aperçoit, et c'est super rassurant, je trouve qu'il y a toujours la même initiative qui démarre.
J'étais en train de lire ce passage. Les conséquences de la guerre, cette chose exotique au coin de ma rue. Comme beaucoup dans le quartier, je changeais de trottoir pour aller de mon domicile au métro. Je ne voulais pas voir les sacs de couchage humides dans la bruine au petit matin, d'où ressortait parfois la tête d'un enfant. Sentir la pisse sécher sur le trottoir, entendre les toux par quinte, les complaintes et les rixes. Je me disais que ce problème relevait de la puissance publique. Ça me hérisse le poil.
Ils changent de trottoir parce qu'ils ont peur. Donc je pense qu'il faut, quand on est là lors des distributions, les accueillir, leur sourire, leur expliquer ce qu'on fait, leur dire que voilà, c'est des gens qui sont venus là parce qu'ils ont vécu des situations dramatiques et qu'ils ne sont pas là pour, ni pour les agresser, ni pour agresser leurs femmes, ni pour... leur boulot.
C'est parfois compliqué de trouver la porte d'entrée pour aider, on ne sait pas comment, à qui demander. Il y a forcément un fonctionnement, une organisation, du coup c'est difficile de trouver.
Je pense que les gens souffrent d'impuissance.
Vous allez la chèvre.
La misère, oui, pourvu qu'elle soit loin et ne mette pas ma patrie en cause.
What's happening?
Je garde l'espoir qu'un jour ça puisse s'arrêter, mais je ne suis pas très optimiste. Je crois qu'il y a une vraie volonté européenne de non-accueil des réfugiés. Donc je pense qu'on est loin d'arrêter les petits déjeuners.
Tu veux un café ?
Ils ne nous posent pas tellement de questions sur est-ce que les choses vont s'améliorer et tout. Ils sont quand même dans un quotidien au jour le jour, rythmé par aller se doucher, prendre un cours de français, éventuellement des rendez-vous à la préfecture, mais... On n'aborde pas tellement les questions plus politiques.
Au moment où ils sont dans la rue, ils vivent vraiment jour le jour, quoi.
On essaye d'apporter un peu de soleil dans leur vie, d'éviter qu'ils se découragent trop, qu'ils souffrent trop, mais quand ils sont dublinés, quand ils sont dans des procédures d'asile qui n'avancent pas ou qui sont en termes de refus, on est un soutien moral, mais on ne peut pas grand-chose de plus.
No problem, don't worry. Don't worry.
La France est sous état d'urgence, des citoyens sont assignés à résidence pour motifs politiques. D'autres le sont sans preuve, la solidarité est criminalisée. L'Europe renie ses valeurs, s'enfonce toujours plus dans le populisme et l'Amérique avec elle. Mais heureusement qu'il y a des gens qui se mobilisent en fait, heureusement qu'on voit qu'il y a quand même un deuxième visage de la France où c'est des citoyens qui trouvent ça incroyable, aberrant et surréaliste. tout ce qui se passe et qui interviennent à leur niveau, mais qui n'ont pas autant de pouvoir, bien sûr, que ceux qui prennent les décisions.
Just walking. Walk.
Il y a des réfugiés à Paris, dehors. Il y a des mineurs isolés, dehors. Et il y a plein de façons de s'investir. Il y en a qui sont plus du matin, ils sont au petit-déj. Il y a des gens qui peuvent faire de l'accompagnement au sens juridique et autres. Il y a des gens qui font des cours de français. Il y a vraiment plein de façons de s'investir. Actuellement, on cherche entre autres des gens qui ont du temps dans la journée pour passer du temps avec des réfugiés, soit pour les accompagner à différentes petites choses, soit pour passer du temps simplement.
You're nice.
Quand tu commences à faire ça, ça change ta vie, ça change ta vision du monde, ça change ton ouverture. En fait, tu développes d'autres manières de penser, d'autres réflexes.
Grâce à ça, j'ai connu mes voisins. Grâce aux migrants, j'ai connu les gens du quartier. C'était vraiment spontané et ça continue en fait, parce que tous les jours, il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent avec leur vélo, qui apportent des gâteaux, des vêtements.
On crée du lien social entre nous, nous les bénévoles. On s'aperçoit qu'il y a quand même à peu près toutes les générations de représentées. Il y a des jeunes, vraiment des très jeunes. Il y a des étudiants. Il y a des gens de 50 ans, pas mal. Il y a des retraités.
Il s'agit plutôt d'un déshonneur, d'une honte. Honte de mon pays qui agit contrairement aux valeurs que ces écoles m'ont inculquées. Il me semble que désobéir est, dans ce cas de figure, la plus juste des façons d'agir. De mon point de vue à moi, qui suis dans l'aide pour ces personnes-là, c'est impossible de ne pas être énervé. Et puis, en fait, plus on s'investit et plus on se rend compte de l'ampleur du non-accueil. Et du coup, c'est sans cesse des nouvelles plus accablantes les unes que les autres. Depuis avril dernier, j'ai l'impression qu'on s'enfonce chaque jour un peu, en fait. À chaque fois, il y a des choses que j'entends ou que je vois et je me dis, non, mais là, ça peut pas être pire. Là, on touche le fond. Et à chaque fois, on touche encore plus le fond. Donc là, récemment, c'était par exemple la pose de très grosses pierres sous un pont qui est très près du camp humanitaire pour éviter que les gens dorment à cet endroit-là.
Toutes les sorties de métro, que ce soit Jaurès, Stalingrad, presque jusqu'à la chapelle, il y a des grilles partout.
C'est quand même des trucs, moi, je trouve ça incroyable que ça se passe en France. Je trouve ça révoltant. Et en même temps, ben, nous, citoyens, on ne peut pas faire grand-chose. À part faire remonter des pétitions, des courriers aux élus, etc. Ben, on est une goutte d'eau, quoi. On est une goutte d'eau dans notre aide et on est une goutte d'eau dans le poids qu'on pèse pour faire changer les choses. Donc, c'est assez rageant. Et en même temps, ce qui fait qu'on continue, c'est que l'aide qu'on apporte, même si c'est justement une goutte d'eau, on sait que c'est nécessaire.
Ça rassure quand même, c'est-à-dire que des actions comme ça, on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Mais justement, là où ça génère un peu de frustration, c'est comment fédérer toutes ces belles actions, toute cette volonté de faire changer les choses. La politique est entre les mains de gens d'appareils de partis et ça va être long avant que les gens de terrain reprennent le pouvoir. Donc ça ne sera pas en avril 2017. Hein. Mais bon, voilà, c'est peut-être les petites gouttes qui feront une grande rivière dans les prochaines élections.
Et ça nous permet de dire que, au lieu de désespérer devant sa télé, quoi, qu'il y a une partie de la politique qui se fait ici. Moi, je trouve que c'est surtout ça qui est important.
Bonne journée.
Au lieu de désespérer devant sa télé, allez donc dans la rue retrouver des gens qui ont déjà commencé à faire quelque chose. Elsa, vous avez des contacts à nous donner ?
Oui, vous voulez devenir une goutte d'eau pour faire une grosse rivière ? Eh bien, contactez le collectif des petits déjeuners sur les réseaux sociaux ou bien allez à leur rencontre tous les jours de 8h30 à 10h. Sur les quais.
Merci beaucoup Elsa Denac. Raphaël Kraft, vous les voyez toujours de chez vous quand vous n'êtes pas en reportage. Vous avez l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a bougé.
Ah bah dans le quartier évidemment. Après c'est Ne pas oublier que le 18e arrondissement de Paris, depuis tout temps, enfin depuis des décennies et des décennies, c'est un quartier où il y a un tissu associatif très fort, un tissu humanitaire très fort. On se souvient de l'occupation de l'église Saint-Bernard en août 1996 et son évacuation violente. On peut se souvenir aussi de la Commune. Mais effectivement, pour ma génération, des habitants de ce quartier, oui, j'ai le sentiment que les choses ont changé. Et moi-même, le fait de vivre dans ce quartier et de participer à l'accueil, à ma façon, ça m'a fait changer aussi, oui.
Et le fait de dire dans votre documentaire sonore, comme dans votre livre, que vous aviez fait passer la frontière à deux personnes, ça ne vous a valu aucune admonestation officielle ?
Bah, dans la mesure où l'un et l'autre, donc Ibrahim a obtenu la protection subsidiaire et après que le livre soit passé sous presse, Ahmad a obtenu le statut de réfugié. Ce serait révélé tout ce qu'il y a de ridicule dans cette situation puisque l'État qui a refusé l'entrée sur le territoire de ces deux jeunes Soudanais leur a finalement offert, enfin pas offert, leur a donné la protection, sa protection. Et donc, s'il y a procès, ce serait ridicule.
Et au contraire de Loïc Hérault, Hubert, pour l'instant, n'a pas eu de problème.
Hubert a fait quelques gardes à vue. Ça ne le gêne pas, et je crois que ça gêne pas grand monde. Je veux pas dire ça, parce qu'il y a un certain nombre, notamment de personnes à la chapelle, qui ont été inquiétées par la justice pour rébellion, outrage, etc., qui ont parfois été victimes de violences policières, et donc je veux pas dire que ça les dérange pas. Pour ce qui concerne Hubert, non, il a envie, justement, de médiatiser au maximum ce qui se passe, et puis il est sûr de ce qu'il fait, surtout. Enfin, il est en conscience avec lui-même.
Et Raphaël K, vous faites quoi en ce moment ? Vous êtes reparti sur les routes, pas à vélo manifestement, mais...
Qu'est-ce que je fais en ce moment ? Je viens de terminer une série sur l'armée française, donc qui n'a rien à voir, et je prépare une série, toujours pour France Culture, sur l'accueil des réfugiés en France, voilà.
Très bien, ben on vous écoutera avec plaisir toujours sur France Culture. Je rappelle que votre documentaire sur ce passage de la frontière italienne, il est toujours en réécoute disponible sur France Culture. Et votre livre, Passeur, qui est paru chez Buchet-Chastel, est bien sûr en vente. Et vous faites d'ailleurs une tournée des librairies en France pour en parler avec ceux qui veulent vous rencontrer. Voilà, merci à vous Raphaël Kraft.
Merci.
C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Au revoir.
Au revoir.
L'Humeur Vagabonde, c'est fini pour aujourd'hui, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dimanche prochain. Je recevrai Philippe Squarzonin, un auteur de bande dessinée qui a adapté le livre Homicide de David Simon, le créateur de la formidable série The Wire. Mais bien sûr, si pour nous ça s'arrête, pour France Inter, ça continue. Vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers juste après les informations de 15h. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.